Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Pierre, Patrick, Mohamed, Mathieu. Et le point cuisson de 20h, ça sent tellement bon que je ne sais plus où donner du nez, Jackie. Parce que je me penche au-dessus du risotto. Pardon ?
Dans les casseroles.
Voilà, je mets mon nez au-dessus du risotto. Il y a mon poids en parmesan là-dedans.
À peu près.
Ça sent...
Mais j'ai mis aussi de la crème et du beurre.
Oui, bah, bien sûr.
Et du mascarpone,
ça fait une grosse
parce qu'il
meule.
Faut...
Bah oui,
il
c'est
faut
l'hiver.
Ce qu'il faut.
Il voilà. faut ce qu'il faut, mais ça sent délicieusement bon. Et alors, c'est Seb, c'est un miracle olfactif.
Ils sont très, très bons. Là. Ils sont bien fermes, ils sont petits comme j'aime. Et surtout, on les a fait juste poêler que d'un côté. Donc ça donne... Il ne faut pas les cuire trop, quoi. Faut vraiment qu'ils restent, censés deviennent gluants.
C'est compliqué, les champignons. Hein.
Faut que ce soit le dernier.
Parce que là, vous m'avez dit que vous n'étiez pas très content des petits
que
champignons
ceux-là,
de Paris.
Ça, non, c'est pas les champignons de Paris, c'est les pieds
ah
des cèpes.
Bon
ça, ce sont les jolis. Et ça, ce sont les pieds des cèpes que j'ai mis aussi en cube, que j'ai fait.
Pas grave, c'est des
C'est des beaux champignons de Paris. Mais non, arrêtez, là, ah. Non, c'est pas bien, là. Donc, on va les mettre dans le risotto.
D'accord, ok.
Voilà.
Même s'ils sont gluants. D'accord, on s'en fiche.
Ils sont un petit peu plus gluants, mais regardez, ils sont magnifiques, quand même.
Ils sont magnifiques.
On mélange bien. Et là-dessus, on va rajouter encore du.
Gruyère.
Parmesan. Champignon de Paris, gruyère.
On est bien.
On va mettre du gruyère.
Du parmesan et on remélange. Et après, je vais vous faire les petites assiettes. Voilà.
Merci, Jackie, propriétaire de l'ours. C'est à 20. Merci, Jackie. C'est quand même difficile de trouver un cadeau d'anniversaire pour une jeune femme qui fête à la fois ses 40 ans, ses 20 ans de carrière, ses 5 millions de disques vendus et la sortie de numéro 9, son 9e album. Mais certains, plus doués que moi, ont trouvé les mots.
Ma Jen, j'aimerais te souhaiter un joyeux anniversaire pour tes 20 ans, voilà, fois 2. Le meilleur pour toi, tu sais que je serai jamais loin, quoi qu'il arrive.
Salut ma Jen. Bon, c'est un grand jour, là c'est ton anniversaire, et puis symboliquement, il y a beaucoup d'anniversaires cette année, ta carrière, toi, notre amitié, je suis sûre que ça va être une date anniversaire aussi. Je pense très fort à toi, bisous.
Personnellement, si j'étais capable de chanter sans déclencher un déluge, je ferais à Jennifer la surprise d'anniversaire qu'elle a faite à l'une de ses jeunes fans qui a vu son idole débarquer à domicile.
Elle est splendide.
Maestro, musique, please. Et là, la magie va réellement commencer. Attention, c'est magique.
Jennifer joue ce soir à domicile. Elle est notre invitée.
Bonjour. Bonsoir.
Bonsoir Jennifer. Bon anniversaire.
Merci beaucoup.
Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Soyez très honnête, si j'avais surgi de la pièce montée d'anniversaire hier soir...
J'aurais été ravie.
Ah bon, vous n'auriez pas fait la tête de cette petite fille sidérée de vous faire débouler à son anniversaire.
Je redécouvre les images. J'avais un souvenir vague de cet instant. Ça fait très longtemps, c'était en 2002.
Sa tête est dingue.
J'aimerais bien voir sa tête maintenant.
Parce que vous, et vous vous souvenez en tout cas de la sensation, du plaisir que vous avez procuré à
oui,
cette petite fille.
Je me retenais souvent de pleurer moi-même, puisque je suis une grande émotive, une hypersensible. Donc forcément, oui, ça m'émeut. Même de revoir l'image, ça me fait quelque chose.
Est-ce que c'est des regards que vous croisez encore là, 20 ans plus tard?
Oui. Il y a un grand nombre de jeunes filles, de jeunes hommes qui ont grandi avec moi, à mes côtés, qui m'ont aidé à grandir bien aussi, le public.
Ils vous disent quoi ?
Il y a beaucoup de bienveillance. Je me sens protégée aussi, d'une certaine manière. Ils sont très respectueux et j'ai beaucoup de chance d'avoir le public que j'ai.
Oui. Divertir comme vous l'avez fait il y a 20 ans pour la fête d'anniversaire de cette petite fille, se changer les idées, mettre de côté les soucis du quotidien, c'est l'un des objectifs de cet album qui invite à danser.
Oui.
Est-ce que tu danses ? Est-ce que tu danses ? On s'en fout ce que les gens pensent. Est-ce que tu danses ? Est-ce que tu danses ? On se fout de la tendance. Allez, viens, on danse. Allez, viens, on danse.
Cet album, c'est un retour à la musique que vous écoutiez quand vous étiez enfant. Il y a un peu de nostalgie dans cet album, enregistré dans les conditions du live, avec des musiciens, des saxophones,
faire de la place à la musique et retrouver de vrais instruments. C'était très important, qu'ils soient très organiques, très produits, mais en même temps, qu'il y ait ce lâcher-prise dans le disque. C'était nécessaire et je pense qu'on vit dans un monde qui est tellement anxiogène que j'avais vraiment envie d'appeler les gens à faire la fête, surtout sur scène. Là, je sors des répétitions. J'ai un showcase, en fait, lundi. Et donc, on commence à construire la tournée autour de ces belles chansons. Je suis un peu fan des collaborations que j'ai eues. J'ai eu la chance vraiment de travailler avec un grand nombre d'auteurs et de compositeurs. Voilà, il y a beaucoup d'âme, beaucoup d'investissement, beaucoup de passion dans ce disque-là, beaucoup de liberté aussi. Et ça me fait un bien fou. Et là, on est en train de construire un petit peu la setlist. J'ai retrouvé les musiciens, les cuivres. Ça me fait du bien, en fait. J'espère qu'il fera autant de bien qu'il m'a fait.
Numéro 9,
il appelle à la scène.
Il y aura une tournée, on va en parler tout à l'heure, une grande tournée. Il a été presque produit pour vivre sur scène et pour partir en tournée. Pensez scène. Oui. Numéro 9, parce que c'est le 9e, mais aussi parce que c'est un numéro fétiche. Non.
J'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup plu, d'extrêmement positif sur ce chiffre-là, une ouverture d'horizon, nouveaux horizons, une nouvelle ère. Oui. Ça m'a séduit.
Ouais, faisons un peu de méthode couée.
Et j'ai arrêté de me casser la tête à chercher le titre. Je trouve qu'il représente bien un petit peu l'atmosphère et c'est l'ADN du disque. Bon.
Et vous serez notamment en concert à l'Accor Arena, c'est le 18 mars 2023, donc c'est dans pas si longtemps que ça.
Oui, c'est demain.
On en parle vite, mais là tout de suite, c'est une autre chanteuse qu'on accueille, c'est Sandrine Saroche. Yes. Bonsoir Sandrine,
bonsoir,
comment ça va?
Bonsoir Jennifer.
Bonsoir.
Bonsoir à tous. Alors cette semaine, pour suivre l'actualité, il faut avoir un œil à Bali et un œil à Paris. Hein, un œil sur le G20 et en même temps un œil sur le Conseil de Paris. Alors autant je maîtrise à peu près le strabisme convergent, autant le strabisme divergent... c'est un petit peu... c'est pas évident. Bref, je vais quand même essayer de vous résumer la situation. Alors, jetons d'abord un œil sur le G20. À Bali, y a pas n'importe qui, y a le président Biden qui confond les pays Cambodge et Colombie. Ah bah oui. À Bali... Il y a le président Nwashi qui essaye de fourguer des valises de litchi aux petits gars musclés en treillis. Zelensky alerte tout des conflits quand il voit ses amis en vacances à Bali qui vont se faire masser le kiki. Emmanuel Lelele lui est toujours enclin à filer un coup de main à ses potes en goguette. Ça part vite en sucette à Bali. Ah bah oui. Hein. C'est une photo qui date de mardi. Alors visiblement, on s'amuse bien avec les copains du G20. Et ça fait plaisir. Alors, deux salles, deux ambiances. Voyons maintenant comment ça se passe du côté de la mairie de Paris. À Paris, il y a Madame Hidalgo qui ment comme Pinocchio et augmente les impôts pour planquer sous le tapis la gabegie. À Paris, il y a Rachida Dati, telle une vierge en furie qui appelle Emmanuel à mettre sous tutelle la mairie. Qu'on soit à Paris ou en Indonésie, après les discours, il y a les petits fours. Il y a une poignée de gars et il y a une poignée de filles qui ont chaque matin dans leur main le destin de 8 milliards d'humains. À Bali, à Paris. Ah bah oui.
Ah ouais.
Bravo. Et quel est le point commun avec Jennifer?
Ah bah oui, on attendait un point commun.
D'accord. Vous aussi, vous mentez comme Pinocchio, Ah bah tiens.
Sauf que moi, je ne suis pas mère de Paris. Voilà.
Exactement.
J'ai le droit.
C'est la seule différence. Merci beaucoup, Sandrine. À la semaine prochaine. Et les Folies Bergères, c'est à partir du 1er décembre.
Oui, tout à fait.
Jusqu'au.
À Paris.
18 décembre. À Paris.
Merci beaucoup, Sandrine. Bravo. À la semaine prochaine. Salut, Mathieu. À demain. Pas du tout. C'est l'œil de Pierre. Non, je me suis mal.
Alors, il y a œuvre d'art et œuvre d'art. On dit la Joconde, mais on dit Normandie pour le paquebot qui a fait la gloire de la France entre le Havre et le continent américain. On dit la Joconde, mais on dit Jennifer ou Babette et pas la Jennifer. Il faut quand même être sérieux. Adrien Motel, jeune écrivain, historien de 25 ans, vient de publier un magnifique bouquin de textes et d'images, Normandie, un rêve français. Donc voici des images, Jennifer, et les célèbres voix de l'époque. Normandie a été mis à l'eau en 1932 et le premier voyage inaugural pour New York part du Havre en mai 1935.
Vous souvenez-vous de ce jour où, devant New York en fête, arrivait pour la première fois un paquebot français qui était en même temps le plus grand, le plus rapide et le plus beau paquebot du monde?
Son lancement, en mai 1935, avait été un événement considérable. Il était le plus grand, le plus luxueux et le plus rapide des navires du monde. Sa première traversée, effectuée en 4 jours et 3 heures, battait de 14 heures le précédent record Europe-Amérique, détenu depuis 1929 par le navire allemand Bremen.
Le plus rapide, Normandie est aussi le plus grand, 314 mètres, 34 mètres de large, je fais ça avec les bras, 34 mètres de large, et 12 ponts, 2000 passagers, c'est le plus beau. Tous les grands artistes français de l'époque, comme les meilleurs architectes, ont collaboré à sa décoration intérieure.
Normandie, le plus beau navire du monde. Preuve éclatante du goût et du génie français. Ce géant des mers, long de 313 mètres et se déplaçant à la vitesse de 31 nœuds, était une extraordinaire ville flottante qui avait forcé l'admiration du monde entier.
Normandie va traverser 139 fois l'océan Atlantique. Ses salons et ses bars, c'est là qu'il faut être. Cary Grant y promène son élégance. Grace Kelly y fête ses 7 ans. Hemingway y rêve de Montparnasse. Fred Astaire y fait danser son chapeau. Mais Joséphine Baker y rencontre le docteur du bord qui la convainc d'acheter les Milandes, là où elle va installer sa famille, si j'ose dire, recomposée. En 1939, Marlène Dietrich croise sur le pont le remarquable ministre français de l'Éducation nationale et de la culture, Jean Zay, qui lui parle d'un projet de festival de cinéma qui damerait le pion à celui de Mussolini à Venise. « Je serai là », lui dit Marlène. Mais Jean Zay mourra sous les coups des Allemands et le festival naîtra en 1946 à Cannes. Mais en 1939 aussi, on croise Pablo Picasso. Et c'est sur Normandie que son fameux tableau Guernica fera la traversée pour New York, échappant à Franco qui voulait le détruire. Et puis la guerre donc, le port de New York accueille Normandie, on le rebaptise Lafayette et les Américains veulent l'utiliser pour le transport des troupes américaines vers l'Europe. Seulement en février 1942, une étincelle enflamme le grand salon.
Le drame du Normandie, le plus beau long courrier du monde, commença ce jour de 42 où, dans le port de New York, l'incendie le marqua du signe de la mort. Ce jour-là, les hommes eurent beau faire, le Normandie devait mourir. Ce ne fut pas le feu, mais l'eau dont on l'arrosa qui vainquit le géant. Ses cales noyées, alourdies par ce poids énorme, il se coucha sur le côté. Il était perdu. Pendant 18 mois, il resta là. Enfin, à force de pompes et de palans, on put le relever. Et le cinéma, par le procédé de l'accélérer, nous offre cette vision résumée du relevage.
Normandie est entrée dans la légende comme les plus grandes œuvres et les plus grands artistes, un destin somptueux, une quasi-perfection, une vie courte, une fin tragique, un peu comme Marilyn ou James Dean. Je vous rappelle le titre du bouquin, Normandie, un rêve français, très bel ouvrage, texte et documents signés Adrien Motel et c'est aux éditions Place des Victoires.
Patrick avait l'air de savoir plein de choses. Ah bah moi, oui. J'ai appris mille choses.
Tout appris.
Oui, voilà. Bon, un peu de choses près.
Un peu de plaisir.
Bien oui. Fait de rester. Bravo.
Il y aura une petite interro à la sortie pour vérifier qu'on a tout retenu. Merci beaucoup, Pierre. Normandie, un rêve français. Vous nous donnez envie de lire. Merci beaucoup. C'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision pour vous donner envie de regarder la télévision.
On est en train de se mettre sur une pente extrêmement dangereuse, tout en faisant le pari qu'on s'adaptera. Et je pense que le pari est très prétentieux.
Pendant des années, on a culpabilisé les gens, les persuadant qu'ils pourront sauver la planète à force de petits gestes. Oui, chacun doit faire sa part. Mais le problème est avant tout structurel, économique. politique. Dans le monde, 100 entreprises sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre.
Au musée Léopold de Vienne, le célèbre tableau « Mort et vie » de Gustav Klimt a été aspergé par des militants pour le climat qui revendiquent leur action. Arrêter la destruction de l'humanité par les énergies fossiles.
Si on regarde les mouvements à travers l'histoire, contemporaine notamment, qui ont réussi à accomplir en partie leurs objectifs, ils sont tous caractérisés par une lutte militante.
Non, non, mais vous n'avez pas à réagir là-dessus, on s'en fout.
Mais on n'en peut plus des émissions sur le climat. Toutes les semaines, on se tape un prime de 2 heures, on fait la morale. L'approche n'est pas la bonne, vous l'avez dit, ça marche jamais en audience sur aucune chaîne. Et je pense que les gens n'ont pas envie, quand ils rentrent chez eux, d'allumer la télé et de se faire engueuler.
Gandhi a dit, à propos du changement social, d'abord ils vous ignorent, puis ils se moquent de vous, ensuite vous combattent, et finalement vous gagnez. On est clairement dans cette phase de combat.
La célèbre marque de soda est la championne du monde de la pollution plastique. Dans un classement publié aujourd'hui par une ONG internationale, elle remporte le titre haut la main pour la 5e année d'affilée.
Détruire des biens matériels symboliques ou directement responsables de l'anéantissement de la planète semble être un processus parfaitement légitime et une réponse proportionnée à notre situation. Les banques, depuis l'accord de Paris, ont dépensé 3 700 milliards de dollars dans de nouvelles énergies fossiles.
La violence commise par une raffinerie et la combustion d'énergie fossile véhiculée dans l'atmosphère frappe et a des conséquences n'importe où dans le monde. Ce qui veut dire que c'est plus difficile pour les victimes de voir le visage de leur oppresseur. On ne verra jamais une vidéo où le PDG de Total ou d'une autre compagnie pétrolière est en train d'étrangler à mort un fermier philippin. Les industries fossiles savent pertinemment que leurs produits tuent des gens dans le monde entier. Pourtant, elles continuent.
Nous sommes convaincus qu'en termes de développement durable et d'héritage, cette Coupe du Monde établira un modèle au niveau mondial et deviendra une référence.
Ça n'a aucun sens. Allez, sors de là.
Allez, je veux être froissé.
Jean-Pierre Dupuis, le philosophe, il est allé plus loin. Il a fait une pirouette philosophique qu'il appelle le catastrophisme éclairé et qui dit que si cette catastrophe à venir est si incertaine, et elle est incertaine, on va la considérer comme certaine pour pouvoir mieux l'éviter.
La vengeance de Vladimir Poutine après le retrait humiliant de l'armée russe du sud de l'Ukraine. Une centaine de missiles se sont abattus aujourd'hui sur tout le pays. 7 millions d'Ukrainiens sont plongés dans le froid et l'obscurité.
Hélène Landmore, professeure de sciences politiques à l'université de Yale, aux États-Unis, qui milite pour ce qu'elle appelle une démocratie ouverte. Elle a vu dans l'expérience française de la Convention citoyenne pour le climat, où 150 citoyens tirés au sort ont établi un plan plus ambitieux que ce que tous les gouvernements du pays ont fait depuis 30 ans, un premier pas en ce sens.
Elisabeth Borne a tranché la vitesse maximale sur autoroute, reste à 130 km/h et ne passe donc pas à 110 comme le proposait la Convention citoyenne.
Mais pour l'automobiliste, non mais vous
20% d'économie de carbone.
Bruce, vous allez rouler à 110 sur l'autoroute, mais, avec plaisir.
Mais peut-être qu'on ne pourra plus rouler du tout, Christophe. Mais...
Quand je prends la masse corporelle des vertébrés supérieurs, c'est-à-dire tous les animaux, et ben 95% est représenté par les hommes et le bétail. Alors effectivement, ça veut dire qu'on a éliminé les autres.
La raison pour laquelle la démocratie est si faible dans la manière dont elle traite des problèmes climatiques, c'est que ce n'est pas une vraie démocratie. Les sciences politiques démontrent qu'il n'y a pas de corrélation entre ce que la majorité des gens veulent et ce qu'ils obtiennent, sauf quand ils ont les mêmes préférences que les 10% les plus riches de la population.
Vous pensez que le vivre ensemble, il a encore un avenir en France?
Je sais pas, moi je me suis inscrit à un club de tir. Ah.
L'obstacle, c'est pas la démocratie, l'obstacle, c'est la plutocratie, l'oligarchie et même, j'ai envie de dire, le capitalisme.
Votre cagnotte, Stéphane, écoutez bien, s'élève à 368 647 euros.
Oh là là.
La vision alternative que moi je propose, c'est celle d'une, de ce que j'appelle une démocratie ouverte, où justement, le centre du pouvoir, qui est pour moi le pouvoir législatif, serait accessible à tous de manière égalitaire. Et je ne vois qu'une seule méthode qui permet de faire ça, c'est le tirage au sort. Voilà. Parce que là, on peut être timide, on peut être pas charismatique du tout, on peut être pauvre, on peut être bête, et on a quand même une chance d'être choisi. Même une personne qui n'a pas tellement de qualités peut en fait voir ses qualités se révéler dans la confrontation avec d'autres points de vue, être éduquée aussi, parce qu'il y a un processus d'éducation quand on commence à être confronté à des points de vue, à lire des choses, à être considéré avec respect.
On n'est pas conscient. Donc là, on se bouge. On a parlé avant le match. Et après, c'est sur le terrain, les gars.
Voilà pour le vu du jour. Le 12 janvier 2002, la Terre s'est quasiment arrêtée de tourner pour près de 12 millions de Français. Un téléspectateur sur deux assistait au triomphe de la première lauréate de l'histoire de la Star Academy en France, une gagnante qu'on apprenait encore alors à découvrir.
Après avoir fêté sa victoire la nuit dernière et à peine profité de deux petites heures de sommeil, c'est à 8 heures ce matin que Jennifer a attaqué sa première journée de star. Une longue série d'interviews.
C'est la fin d'une très belle expérience, une très belle aventure, mais c'est le début d'une autre. Alors maintenant, il va falloir assurer, il va falloir travailler très dur. Et je suis prête à travailler, je suis une bosseuse, voilà, j'en veux beaucoup.
Pas vraiment le temps de déjeuner, ça devient une habitude, mais elle pourra se rattraper dans les dîners où elle est conviée. L'heure est maintenant venue d'assurer 3 séances photos.
Vous étiez un zombie, Jennifer ?
J'étais un zombie. Je revois les images, mais c'est exactement le reflet de l'humeur que j'avais.
Mais ça vous sortiez trois mois de compétition, un rêve éveillé.
Mais toute seule, surtout. Ouais. J'ai tout de suite été isolée. J'avais l'habitude de vivre en communauté avec des copains. Ben.
Et hop, on vous extirpe de là.
Oui, dans une énorme suite, je me souviens, j'avais peur.
Et c'est votre maman qu'on vous voit vous donner à manger parce que vous n'aviez même pas le temps de manger. C'était le premier jour du reste de votre vie, en fait, là, auquel on vient d'assister.
Ouais.
Et 20 ans plus tard, vous en voulez encore autant que la jeune
Jennifer. Ouais. Oui, j'ai jamais perdu la notion de travail et surtout, j'ai jamais oublié d'où je venais et j'ai jamais perdu la passion et l'amusement à travers cette passion-là, surtout.
Évidemment, on revoit ces images de la Star Academy, alors qu'est relancé tout d'un coup le grand retour de la Star Academy. En fait, vous, à l'époque, c'est ce que nous disait aussi Matt Pokora, vous n'aviez pas tellement conscience des caméras. Là, on voit bien qu'eux, ils ont tout compris, ils traînent un peu moins en pyjama que vous à l'époque, quoi.
Je peux pas, je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai cru comprendre que ça marchait bien en tout cas et qu'il y avait de jolis talents. J'y suis allée sur la première parce que ça m'a fait plaisir et parce que j'avais un petit sentiment de fierté aussi d'aller chanter ma nouvelle chanson. Quelque part, voilà, au bout de 21 ans, revenir chanter son nouveau single, j'étais quand même hyper fière.
En regardant le chemin parcouru. Ouais.
8 mois après votre victoire à la Starac en 2002, dont on peine à imaginer aujourd'hui le retentissement que ça a eu. Enfin, c'était pas seulement un énorme succès d'audience de télévision, c'était un phénomène de société qui envahissait toutes les conversations privées et publiques. Enfin, vous pouviez pas vous rendre, enfin, moi je m'en souviens parfaitement, vous pouviez pas vous rendre quelque part sans qu'on vous demande alors vous êtes pour Jennifer ou vous êtes pour...
Mario.
Oui.
C'était Mario, évidemment.
Ah oui, tu t'en souviens pas parfaitement.
Comme j'étais pour Jennifer, je me souviens
mais
pas.
On me le dit encore parfois, j'ai voté pour vous.
Ah ouais,
c'est vrai.
J'ai voté pour vous à la Star Academy.
Et donc, 8 mois après, vous faites votre premier concert solo, octobre 2002.
Jennifer,
voilà vos souvenirs, souvenirs de vos premières scènes et de vos premiers triomphes face au public en vrai. Mais je crois que dans la vie, votre première scène, c'était à 10 ans. Vous êtes montée sur scène en Corse avec Dave et c'est Jérôme.
Oui, la première partie. Vous savez, on se connaît, on vit dans un petit village et on connaissait bien le restaurateur et donc on y allait que la petite peut chanter. Ouais, j'ai eu cette chance-là de pouvoir chanter avec un micro et des musiciens dès mon plus jeune âge. Donc c'était un privilège quelque part, j'ai toujours voulu chanter.
Et Dave et Jérôme ont accepté, ont dit oui.
Ils n'ont pas trop eu le choix.
Ils n'ont pas eu le choix, d'accord. Ouais, c'était ça ou pas de concert.
Mais ils sont venus me saluer, ils étaient contents, je crois. Non, ça c'est. Oui, ils ont été plutôt bienveillants. J'étais d'accord. Une petite fille.
Oui.
Oui. Jennifer, j'ai un problème d'éthique, j'ai un problème moral pour vous présenter le document qui suit. C'est une interview que vous avez réalisée avec un confrère d'une radio corse, c'est surtout notre confrère qui parle. Et franchement, la question se pose de savoir si, vis-à-vis de vous, nos amis corses, journalistes ou non, sont vraiment objectifs.
Okay.
Merci de nous accueillir. Merci. Je te dis et je te redis combien... Et mon plaisir d'être à tes côtés, de dire que tu nous représentes bien, c'est un pléonasme. Ton sourire magnifique, tu es parmi les figures emblématiques de la chanson française, au top au niveau de la chanson française, au top au niveau de Radio Giletti, au top de la télé française, au top au cinéma. Quel plaisir vraiment renouvelé de te voir.
Ça me fait plaisir, merci beaucoup pour tous ces compliments, je suis très touchée.
Ah oui, vous étiez embêté parce que les questions étaient difficiles quand même.
Ça, c'était très beaux compliments, très très forts.
Bien sûr.
Mais ça me met toujours mal. Je sais jamais quoi répondre à part merci.
Oui. Non mais en Corse, les concerts, ils sont particuliers ou pas?
Oui, il y a toujours cet instinct un peu de protection tout de suite. Je chante à domicile, c'est comme quand je chante à Nice aussi, parce que je suis native niçoise aussi, j'ai une partie de ma famille à Nice, j'en ai en Corse, j'en ai aussi à Paris, mais voilà, je suis une
Faut pas dire un mot de travers de Jennifer en Corse, quoi.
Comment ?
Faut pas dire un mot de travers de Jennifer en Corse.
Non.
Voilà, comme ça on est prévenus.
Plusieurs auteurs ont composé les musiques de cet album. Parmi les nouvelles plumes sur cet album, on retrouve les chanteuses Oshi et Isolt. Oui. Les autres sont signés Marc Veld, avec des chansons intimes et surtout un titre phare. Il y a un petit souci de micro.
Oui, ça, je passe le micro à Jennifer, mais normalement, on entendait le son.
C'est pas très grave.
Ah, c'était à toi.
Voilà, je vais me coller à Pierre, est-ce que je peux me coller?
Moi, je vais chanter.
De Jennifer.
Non, faut pas. Attends, il y a une panique généralisée. J'ai compris que c'était vos micros qui ne fonctionnaient pas.
C'est lui qui parlait à ce moment-là.
Non, je disais que Jennifer, plusieurs auteurs ont écrit et composé les musiques de cet album. Parmi les nouvelles plumes, les chanteuses Oshi et Isolt.
Oui, tout à fait.
Les autres sont signés Marc Veld, avec des chansons intimes et surtout un titre phare. Et Jennifer, il y a un message derrière ce titre. Vous êtes marraine de l'association Le Refuge.
C'est un vrai cri d'amour.
Ouais, c'est ça qui aide les jeunes victimes d'homophobie. En clair, il faut sortir les amours du placard.
Absolument. Absolument. Vivre. Et assumer qui on est en balayant les éventuelles cases dans lesquelles on veut nous mettre. C'est une ode à la tolérance, à la non-discrimination. Et moi, j'ai des amis qui sont homosexuels. Ça a été pénible. Je suis témoin aussi d'un grand nombre d'histoires qu'on accepte de me partager. Et je voulais que cet album respire la sincérité. Donc, il y a des sujets qui me parlent, qui me touchent, qui me provoquent des sentiments. Et effectivement, j'ai choisi ce sujet-là. Et Marc Weld m'a prêté sa fabuleuse plume pour avoir les mots les plus justes. Et pour envoyer valser les candidatons avec un contre-pied dans la musique. C'est une musique qui est extrêmement gaie, qui est extrêmement festive. Et voilà, de tenter de panser des plaies ou d'accompagner à mieux vivre et à assumer clairement qui ils sont, qui elles sont. On balaye les genres, quoi.
Ouais. C'est pas ce titre-là que vous allez nous interpréter dans quelques minutes sur la scène de C'est à vous, c'est En attendant. C'est une chanson dédiée à vos trois fils. On m'a dit que pendant la répétition, vous aviez eu du mal à retenir.
Je n'ai jamais réussi à chanter cette chanson-là complètement en studio. Ça a été... Oui, parce que effectivement, je mets vraiment ma pudeur. Je suis très pudique au niveau des sentiments les plus intimes. Celui-ci en est un, mais au-delà de ça, c'est une chanson vraiment sur la transmission, sur le sens de la famille. Donc, j'ai plein de nostalgie comme ça, du temps qui passe, sur le cycle de la vie. Je la chante pour les autres, bien évidemment. Mais forcément, ces mots-là me provoquent une énorme émotion. Mais j'ai choisi de la chanter ici parce que je me sens comme dans un cocon. Et c'est vrai que c'est une chanson, elle est à part. Tout l'album, c'est un appel à la fête, clairement, et tout. Et cette chanson est vraiment, c'est l'ovni. Et en même temps, je voulais raconter la vérité sur cet album-là. Je voulais qu'il transpire la vérité encore une fois, comme chacun de mes albums, et celui-ci encore plus. Et donc voilà, je vais essayer de la chanter.
Ben alors, c'est dans un instant. D'ici là, j'étais à ça, Zoé et Bruno.
J'étais à ça.
Putain, mais t'es conne! Tu m'as fait hyper peur!
Mais c'est toi qui m'as fait peur! T'es tout blanc, j'ai cru que t'étais mort!
Ah, mais non, enfin, j'ai été donné mon sang tout à l'heure. Maintenant que les homos ont le droit. Mais bon, comme je suis au régime, j'ai pas pris la petite collation. Et pff, j'ai eu un petit coup de mou.
Oh là là. C'est marrant parce qu'on est allé hier donner notre sang avec maman.
Avec maman?
Alors, vos âges?
40.
62.
62?
62. Parce qu'à partir de 70 ans, on ne peut plus donner son sang.
Bon. On n'a jamais vraiment su son âge, mais je sais très bien qu'elle n'a pas 62 ans. J'ai laissé Sarah enchaîner.
Nombre de partenaires au cours des 4 derniers mois?
5.
Pardon?
Pardon?
Mais toujours des rapports protégés. Rassurez-vous.
Eh ben, très bien. Et toi, Zozo?
0.
Bon, bah on va pouvoir passer au prélèvement, hein, mais pour ça, il va falloir que vous alliez au labo juste en face, parce que moi, je ne suis pas habilitée à vous.
Merde, non, mais qu'est-ce qui t'empêche de nous piquer puis de porter les tubes après?
Maman, c'est le protocole, c'est comme ça. Bon, Claire, ça me fait plaisir que vous me fassiez confiance. On va s'arranger.
Ah, merci.
Tout ça parce qu'elle a peur de maman.
Mais tout le monde a peur de maman.
Mm. Oh là là, magnifique. Oh, il a une couleur, regardez. Dingue.
Oh, bah, Claire. Oh,
bah...
Vous êtes vraiment des quiches.
T'as raison. Je vais y retourner demain, parce que là, j'étais à ça de donner mon sang.
Ah. Numéro 9, c'est le 9e album de Jennifer, avec une chanson OVNI, en attendant, dédiée à ses trois fils. Est-ce que vous êtes prête, Jennifer?
Oui.
Entourée de vos musiciens, Clara, Cécile Subirana et Robin Antune au violon, Clara Germont au violoncelle et Isabelle Arfi au piano. C'est à vous.
Bien sûr, vous aurez des chagrins, des nuits blanches et des mauvais jours. Bien sûr, moi, je n'y pourrai rien, on ne se comprendra pas toujours. Bien sûr, je veillerai trop tard à guetter le bruit de vos pas. Et bien sûr, vous en aurez marre, mais pourquoi tu ne me préviens pas? Et s'il le faut, je saurai me faire discrète, puisqu'il faut croire que c'est la tradition devant vos amis, invisibles ou presque. Mes fils, ma force, ma raison. En attendant, je me ferai. Suspendra quelques silences à vos non-dits, à mes tourments. Tant qu'on en rit, quelle importance? Rien ne sera grave vraiment. Ensemble, on fera des voyages pour fabriquer quelques souvenirs. Quand votre enfance prendra le large, il faudra bien la laisser partir. Et le moment viendra évidemment trop vite. Un jour, vous quitterez la maison à l'encre de vos vies, écrire un nouveau chapitre. Mes fils, ma force, ma raison. Mais en attendant, je marcherai à côté de vous. et un peu du repas d'hier. Si vous passiez là par hasard, je ferais semblant de ne pas m'y attendre, mais j'espérerais de tout mon corps que vous viendrez pour me surprendre et dans vos bras me serrer fort. Et là c'est moi qui serai toute petite. Soudain, les rôles s'inverseront. À votre bras, je me sentirai unique. Mes fils, ma force, ma raison.
Et l'Accord Arena, ce sera le 18 mars 2023. Jennifer, très heureuse de vous accueillir à la table de C'est à vous, aux côtés d'un humoriste qui a déjà rempli Bercy et qui sera à l'affiche du Dôme de Paris à partir de demain. Trois représentations à guichet fermé. Salut Farid.
Salut, ça va?
Ouais, moi ça va. Aime-moi si tu peux, c'est le titre de votre spectacle, mais si on veut, on peut, non?
Pas toujours.
Bon, clairement, le public vous aime et vous le prouve, Farid.
Ouais, ouais. Pour l'instant, ils sont là. Après, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Pour l'instant, ils sont là.
J'ose à peine vous présenter Bertrand, parce que je sais que ça vous rappelle un souvenir d'enfance presque douloureux. Parlez-nous de Bertrand, de votre quartier Strasbourg-Saint-Denis.
Je ne vais faire aucune blague de ce spectacle, mais oui, il y avait un Bertrand qui était un fou. Parce que je parle de Strasbourg-Saint-Denis, parce qu'on a des gens en particulier à Strasbourg-Saint-Denis. Et quand on était petit, il y avait un fou qui s'appelait Bertrand, mais pas du tout aussi classe que toi.
Je ne vous veux aucun mal.
Mais il fallait changer de trottoir quand on croisait Bertrand. Là, il est à table avec nous.
Comme voilà, quoi, c'est déjà pas mal.
Les Bertrands se suivent et ne se ressemblent et pas. Oui. Permettez-moi de vous présenter Jacques Kiribaud, notre chef propriétaire. Bonsoir. De l'Ours à Vincennes qui nous régale depuis lundi. Je vous conseille de goûter immédiatement ce risotto.
Bah ouais, gruyère râpée, champignon de Paris, on est bien. Je plaisante, bien sûr, c'est du cèpe. On a fait du cèpe, vous l'avez senti tout là, hein, cet après-midi, mais le cèpe, il est magnifique, il est bien ferme, comme vous aimez, et donc avec un petit risotto de riz noir. Et juste dessus, il y a un petit peu de craquant, c'est du gruyère de cacao. Et encore dessus, la petite toile d'araignée qui est dessus, c'est juste de l'algue kombu grattée.
Ah oui.
Du cœur d'algue kombu grattée, voilà.
Ça alors.
Oh, c'est formidable. Je vous souhaite un très bon appétit.
Merci, cher Jacques. Merci. À demain pour un nouveau point cuisson de 20h. C'est un parti pris, votre spectacle, Farid. Vous parlez essentiellement d'amour, sur scène, de couple, d'intimité, un thème que vous approfondissez après l'avoir abordé précédemment.
Toutes les femmes, sans exception, draguent. Toutes, sans exception. Nous, on ne le sait pas, ça, nous. Hein? On ne le voit pas, ça, nous. Non, on ne sait pas. Tu sais pourquoi on ne le sait pas? C'est pourquoi on ne voit pas? Tu sais comment elles draguent? Elles attendent. C'est ça leur moyen de te montrer qu'elles sont extrêmement intéressées, ne rien faire du tout, parce qu'elles pensent qu'elles t'sais... Elles sont mystérieuses, elles ont des ondes. T'sais, elles pensent qu'elles ont des ultrasons. Elles se prennent pour des dauphins, d'accord? Elles se prennent pour des dauphins.
Oui, l'amour, ça vous donne des sujets de crispation dans le spectacle, Farid, et notamment les gens qui disent « je t'aime » tous les jours. Vous les traitez de menteurs, ces gens-là?
Parce que une longue relation, le couple, c'est pas de la démonstration. Je pense que quand on essaie de démontrer, et c'est ce que c'est que de dire « je t'aime », c'est une espèce de preuve par des mots, une verbalisation. Je pense que quand on essaie de prouver, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a une question qui provoque une angoisse folle chez vous, c'est quand votre compagne vous demande « alors, comment ça va ?» et surtout « à quoi tu penses ?»
Oui, parce que j'ai l'impression que le mythe amoureux, parce que c'est de ça dont il est question un peu dans le spectacle, il veut qu'on partage tout dans un couple et qu'il n'y ait pas de secret l'un pour l'autre et qu'il n'y ait pas de moments qui appartiennent vraiment que à l'un ou que à l'autre. On doit essayer de partager le maximum. Et je pense que ça, c'est l'échec du couple, plutôt que l'inverse.
Vous ne voulez pas que quelqu'un soit dans votre tête, quoi. En gros,
vaut mieux
c'est
pas,
ça.
Hein, vaut mieux pas.
Ah bon?
Et d'ailleurs, dans le spectacle, vous parlez aussi de vos infidés. Vos infidélités.
Ah, t'as mal à le dire.
Ouais, mais c'est un mot que j'ai.
J'ai des choses à te reprocher, toi.
Ah oui, oui, oui. Oh, c'est clairement un lapsus révélateur.
C'est bizarre.
On a parlé pour toi. Non, mais parce que c'est passé.
Merci beaucoup, Farid.
On change de sujet si tu veux.
Non, pas du tout. Moi, j'ai une vie juste après. J'ai une compagnie à retrouver. Donc, on va rester sur ce sujet-là.
Oui, oui, oui. Oulalalala. Exactement.
Ça a pas dit que
vous étiez réticent sur ce sujet-là avec votre compagne.
Pardon ?
Vous étiez réticent d'évoquer ce sujet-là avec votre compagne actuelle.
Non, j'étais réticent d'en parler dans le spectacle parce que c'est
vis-à-vis
vrai que,
d'elle, oui.
Parce que
ça craint une gêne.
L'infidélité, c'est un sujet dans lequel moi j'ai été quasiment toute ma vie et j'ai expérimenté, j'en parle dans le spectacle, j'ai expérimenté l'inverse de ça avec elle. Et c'est sûr que de parler de ça sur scène, les gens, ils savent pas de laquelle on parle, ils sont pas dans ma vie. Donc forcément, ça crée une gêne. Du coup, elle devient un peu co-auteur du spectacle. Très vite.
Elle intervient.
Script doctor, ça non, ça non.
Mais c'est pour ça que vous angoissez d'avoir une fille pour de vrai.
Ouais. Avoir des enfants de manière générale, mais...
Une fille en particulier.
Avoir une fille, c'est surtout l'idée de savoir qu'on n'a pas expérimenté la même chose. En tout cas, je n'ai pas expérimenté ce qu'elle va expérimenter. Donc, il y a plein de choses que je ne saurais pas lui dire à ma fille.
Je ne sais pas si vous avez vu, Farid, la dernière une du magazine Society.
Oui, je l'ai lu même.
Ah, vous l'avez lu. La vie des comiques français est moins drôle que vous ne le croyez. Et chacun son sujet déprimant. Arnaud de sa mère raconte son divorce et la mort de son père. Jérémy Ferrari, son alcoolisme. Blanche Gardin, sa dépression. Haroun, sa solitude. Florence Foresti dévoile ses désordres dans la série de Canal. Et vous, c'est quoi votre sujet déprimant?
À vous. Il
n'y en a pas.
Je pense que la déprime des humoristes, c'est un mythe qui peut se vérifier sur la moitié des humoristes. Mais je pense que ça dépend de pourquoi on fait ce métier. Et comment on le fait? Si on le fait parce qu'on comble des frustrations dont ils parlent dans les articles de l'enfance, du collège, souvent ça donne des crispations plus tard parce qu'on le fait pour des mauvaises raisons. Mais il y a aussi des humoristes qui sont heureux. Hein.
C'est votre cas?
Ouais, moi ça
bien,
va. Hein.
Bien dans votre peau sans sujet de.
Bah si, l'infidélité.
Ça, c'est un sujet de vie, c'est comme tout, comme tout le monde. Et non, comme
ça peut être Mohamed. Joyeux,
ça peut être joyeux. Mohamed.
Patrick,
c'est vrai.
Un message?
Non, ça, je dis que ça peut être.
Mais vous disiez que, bon, il n'y a aucun sujet de déprime, pourtant vous avez bien failli arrêter l'humour après le Covid. Ça,
oui,
sérieusement.
Oui, c'était un moment où je me remettais en question dans. Je pense que c'est aussi une question de, plus largement d'artiste, de savoir est-ce qu'on a une marge de progression, est-ce qu'on peut être toujours au même niveau. Là, tout à l'heure, j'entendais 9 albums. Je ne sais même pas comment on a la patience, la passion, qu'on ne se juge pas assez soi-même pour arriver jusque-là. Moi, je ne sais pas si je vais en écrire un après ça.
Parce que les rencontres, ça provoque des choses.
J'espère. Hein. Ouais. J'espère, mais c'est...
Mais là, vous avez fait une sorte de quitte ou double. Vous êtes allé à Montréal... Vous vous êtes dit, si je fais rire, je continue ma carrière, sinon j'arrête tout.
Oui, j'avais la frustration d'aller à Montréal et de ne pas faire rire comme je faisais rire ici à Paris, parce que j'avais peur de faire rire sur une musique plutôt que sur des sujets. Et donc, c'était un peu un quitte ou double. Mais,
bon, finalement, oui, vous avez doublé la mise, quoi.
Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va, mais on est fauché jusqu'à présent. C'est un peu compliqué, quoi.
Avec Jean-Marc Dumontet, vous avez ouvert votre comédie club en 2019, le Madame Sarfati, et vous produisez la crème de la crème des jeunes qui montent.
Je ne les produis pas, moi. En gros, le Madame Sarfati, c'est vraiment un endroit pour les gens, les humoristes qui ont déjà un spectacle, qui ont déjà même du succès.
Ouais.
On a pas mal d'humoristes qui passent, je ne vais pas les citer, parce que l'idée, c'est de venir et découvrir du stand-up. Mais c'est un peu la salle de boxe de... des humoristes de notre génération, mais je ne les produis pas. Non, non, l'idée, c'est pas de... C'est vraiment, je voulais offrir aux gens de ma génération une maison qu'on pouvait partager tous ensemble, quoi.
On parlait de Montréal, mais c'est quand même extraordinaire qu'avec, non seulement Madame Sarfati, mais tous les autres, il y a plus de comédie club aujourd'hui à Paris qu'à New York. C'est magnifique.
Et bah,
la scène.
Ouais, bah je ne savais pas, vous me l'apprenez.
Ouais.
Et pourtant, c'est un gros business là-bas, et surtout... Là-bas, ça fait un siècle que ça existe. Mais on est un peu à cette période du stand-up, comme dans les années 90, dans le rap, où ça prenait beaucoup d'espace dans la vie culturelle. Et j'espère que ça suivra plus ou moins le même chemin.
Ah ben là, c'est déjà complet depuis 2 mois, hein, pour les 3 dates au Dôme de Paris, à partir de demain, jeudi, vendredi. Mais vous serez au Théâtre de la Renaissance à partir du 27 janvier 2023. Ouais. Et une tournée internationale à partir du 1er décembre, avec des dates à New York, Los Angeles... Rio, wow. Sao Paulo, Abidjan, Shanghai, Kinshasa, Sydney, Montréal.
Trop beau.
Tant qu'à faire.
C'est de dingue, quoi. Je n'en jetais plus, quoi.
C'est là que le mot communauté peut être positif en France. C'est grâce à la communauté française qu'on peut aller jouer partout dans le monde.
Voilà, donc Jennifer, l'accord Arena oui. le 18 mars, c'est que le début d'une tournée mondiale. Je vous redis les dates.
Tout à fait.
Los Angeles,
c'est ta première partie.
Dans le tourbus de Paris. Exactement.
On n'est pas nombreux, on est 15.
Wow. Deux conseils culturels à vous donner ce soir. Des sorties ciné, on avait reçu la semaine dernière Valeria Brunetedeschi pour Les Amandiers. Ça sort aujourd'hui avec Lou Garrel et une génération de jeunes acteurs qui vont faire parler. Mention spéciale aux jeunes Sofiane Benacer. Très prometteur. J'avais promis de le dire et aussi de rappeler la sortie d'une comédie romantique avec Alex Lutz et Goldshifteh Farhani qui était venu nous parler de la situation des femmes iraniennes. Voilà, ça sort aujourd'hui au cinéma. Allez en salle. Dernier rendez-vous culturel à ne pas manquer, Marcel Proust. Le centenaire de sa disparition, pour l'occasion, c'est à vous, change de décor. Et dès qu'il y a une bibliothèque qui déboule, Augustin Trapenard. Salut Augustin.
Attends, je l'entends. Adrien, je l'entends pas. Anne-Elisabeth, vous êtes là?
Oui.
Anne-Elisabeth.
Oui,
ah, tous Proust, ce soir, on est au studio Gabriel. Ça va être une émission exceptionnelle, hein, en public. Tous Proust, c'est notre slogan, c'est notre devise. Et Anne-Elisabeth, il faut le dire, c'est vraiment une émission pour toutes celles et ceux qui n'ont pas lu Proust, qui ont toujours été un petit peu intimidés et qui vont s'y plonger, j'espère, au terme de cette émission pour la première fois. Mais aussi pour toutes celles et ceux qui l'ont lu et qui vont le découvrir autrement, plus facétieux, plus accessible, plus joyeux que jamais. Proust qui nous a même appris à parler. On va l'apprendre ce soir. Ça sera une émission sous le signe d'un feu d'artifice, vraiment avec des comédiens, des musiciens, des experts, des romanciers, même des dessinateurs, et sous le signe de la chance, Anne-Elisabeth, parce que quand même, vous vous rendez compte, on est en France, et c'est ça la France, on est capable à 21h, sur le service public, de faire une émission pendant 1h30 pour Proust, sur Proust, ça va être extraordinaire, et je suis tellement fier d'être là en public, au studio Gabriel, c'est dingue, il faut que je me dépêche par contre, mettre mon costume, parce que là, ça va être une petite galère, parce que là, il me reste quoi? Il me reste un quart d'heure à peine.
Merci beaucoup, La Grande Librairie. C'est tout de suite après les actualités de Bertrand. Et venez, parce qu'on est formidable en France. On fait des faux duplex sur le plateau de C'est à vous. Tiens, bah attends.
Et après, je vais être à la bourre, Anne-Elisabeth.
C'est truqué, alors.
C'est pas truqué.
Non, c'est vraiment truqué. Macouille et compagnie.
C'est une grande émission.
Vous serez dans quelques instants sur le plateau de la Grande Librairie par téléportation. C'est comme ça, on est très fort.
Et tout le monde va regarder autour de cette table, évidemment. Farid, oui. Jennifer, oui. Pierre, tout le monde.
Exactement. Et Bertrand Chamerois et ses actualités. Vite, tiens, la Grande Librairie.
Tout de suite. Yes.
Bonsoir à la une de ce 16 novembre. Prenons le large, parlons bateau et route du Rhum, direction...
En direct depuis Pointe-à-Poutre.
Direction Pointe-à-Poutre, donc, où Charles Caudrelier est arrivé vainqueur, suivi de très très près par les skippers ultramarins.
Est-ce que vous avez des nouvelles des skippers ultramarins?
Ils ne sont pas très bonnes, on en avait parlé un petit peu hier déjà. Vous savez qu'il y a eu deux abandons, il y a trois bateaux qui ne sont toujours pas repartis, mais ils sont très très loin de l'arrivée. Ils sont attendus ici, même pas la semaine prochaine, plutôt la semaine d'après.
Voilà, bon, vous emmerdez pas, faites demi-tour, ce sera plus rapide. Et si vous pensiez avoir passé une journée compliquée au boulot, je vous propose tout de suite de relativiser en découvrant celle du journaliste de La Première qui a été dépêché sur un bateau en pleine nuit pour un duplex au beau milieu de la mer dans des conditions vraiment sympatoches.
Absolument. Alors nous sommes, nous filons 18-20 nœuds sur notre bateau moteur. Alors, comme le disait Philippe,
merci Bruno, on n'entend pas un strict... rentrez chez vous, prenez un fervex, on n'entend rien. International aujourd'hui à Bali. C'est dommage, mais c'est refermé le G20. Il était temps, car certains commençaient à saturer de se retrouver au milieu de discussions dont ils se foutent. Ma pauvre... Et pour cette dernière journée, l'organisation indonésienne avait sorti le grand jeu en accueillant les chefs d'État et leurs véhicules avec une précision assez bluffante. À la place du monsieur, j'aurais eu très peur pour mes genoux. Ah, c'est pas passé loin. Vous avez vu l'image?
Ah non.
Non, mais je crois que les gens chez eux l'ont vu. Lui aurait bien eu besoin d'un radar d'avance. C'est Joe Biden. Attention! pas passé loin. Alors, pour décompresser ce matin, il a fait de l'exercice. Alors non, il n'est pas allé à la salle de sport du club du G20. Il a simplement mis ses lunettes de soleil. Pour vous, c'est anodin. Pour lui, c'est l'équivalent d'une heure de crossfit, vu le temps qu'il a mis à mettre ses binocles sur le bout de son nez. L'image qui va suivre est en vitesse normale. Bravo, Joe. Et comme dans tous les clubs de vacances, il y a des rapprochements. Voilà, ça se fait. Et le courant est très bien passé, très très bien passé entre Joe Biden et le président indonésien. Mais ce qu'il se passe à Bali reste à Bali. G20 au cours duquel ont été révélées les images du prochain James Bond avec un Dr No plus flippant que jamais. Je vous attendais, monsieur Bond. Bruno Le Maire, de son côté, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Erdogan, à qui il a présenté ses condoléances, ainsi qu'à l'anglais.
Tout va bien, vous ? Fine, you. Fine. Happy to see you. And once again, condoléances.
And once again, I'm very triste. Emmanuel Macron, qui participait ensuite à une compète de grimaces.
Merci. Une première question de Bénédicte Tassard pour RTL.
Je vous écoute, allez-y. Et après avoir répondu à cette palanquée de questions, c'était la fin, mais le président, il n'en a pas eu assez, donc il est joueur, il a joué.
Allez, une toute dernière sur l'Iran.
Allez, ouais, j'en vais encore. Allez, une dernière et j'y vais. Question sur. Allez, sur l'Iran, allez, ça me fait plaisir. Heureusement qu'il était là, car c'est le chef du village du G20. C'est grâce à lui que le monde tient encore à peu près debout.
J'ai pu tout à l'heure également échanger avec le Premier ministre Modi. J'étais aux côtés du président Ramaphosa pour ce faire. J'avais réuni les présidents Kagame et Tshisekedi en marge de l'Assemblée générale. Maintenant, je crois que nous allons devoir y aller puisque nous devons rejoindre Bangkok pour le sommet de l'APEC. Et je reviendrai sur le reste. Merci beaucoup.
Mais quel homme ! Heureusement qu'il est là. Il règle tous les problèmes au G20. Mais toutes les bonnes choses ayant une fin... C'était la dernière journée pour les clients du club G20 qui ont eu droit à un atelier silence ça pousse avec photos souvenirs en bêchant, suivi d'une visite guidée qui s'est terminée dans la mangrove. Et ils sont repartis en faisant un dernier selfie pour immortaliser ce séjour all inclusive. Et promis les gars, on s'écrit, on se revoit l'an prochain. Hein.
Quand vient la fin de l'été.
Ah, c'était bien ce G20.
Sur la plage.
Avec tout le personnel qui leur dit au revoir. C'est toujours bien d'écouter ces Jérôme, surtout en ce moment. Allez, un peu de glamour et chic dans cette actu plombante. C'était hier la cérémonie que les Américains nous envient, les BFM Business Awards. Ce sont les Oscars des entrepreneurs, les Césars des abonnés de Challenge et Alternatives économiques. Et BFM Business, c'est la seule chaîne de tout le bouquet numérique où l'on diffuse les cours de la bourse sur fond de musique de boîte lounge. C'est diffusé comme ça à l'antenne.
Arrête.
Ouais. Et Hermès a perdu 1,33%. Et restez avec nous, notre soirée Fusac Miam Famous continue dans un instant. Le président de Mauboussin sera sur le plateau. Je vous entends pas, les dirigeants. La soirée des BFM Business Awards, c'est l'événement de l'année pour la chaîne qui était en boucle toute la journée. Ils avaient dépêché un homme all day long devant le Louvre pour nous rappeler que c'était la soirée à ne pas louper.
Pour cette cérémonie exceptionnelle qui va donc se dérouler dans un lieu exceptionnel, cérémonie exceptionnelle dans un lieu tout aussi exceptionnel, cérémonie exceptionnelle à venir ce soir dans un lieu tout aussi exceptionnel.
Et toute la journée, puisque ce n'est pas le même extrait qu'on a mis en boucle, il a vraiment fait le piqué devant le Louvre. En revanche, la sonorisation de la soirée était un peu moins exceptionnelle. Exceptionnelle.
Alors je suis désolée Christophe, on vous entend absolument pas.
Okay, mais que finalement aujourd'hui, avec l'introduction en bourse, l'IPO de Deezer sur le marché français...
Soul, on a dit qu'on t'entendait pas. Mais le meilleur moment de cette soirée restera cette scène, non, n'ayons pas peur des mots, cette performance entre une journaliste de BFM Business et le patron de Blablacar. En ajoutant la musique, on a l'impression de regarder les feux de l'amour, Victor Newman et Ashley Abbott, première.
Mais alors toi aussi, Frédéric, t'as décidé de rejoindre cette folle aventure de BFM Business?
Bah ouais, ouais.
Quand?
Là, à la rentrée, là. Enfin, je crois que j'ai signé un peu vite, mais bon...
Et alors, tu regrettes? Moi qui pensais faire une pause dans ma carrière d'entrepreneur, c'est pas vraiment ça?
Ouais, c'est une idée, ça. On n'aurait plus de patron.
Et si on recrée une start-up?
Ouais.
On se reprendrait plus,
qu'est-ce qui se passe?
C'est vrai, ça. Et si on recrée une start-up? Mais tu as fait ton bilan comptable auprès de l'URSSAF? Et l'avantage avec ces cérémonies, c'est que ça permet de s'échapper, d'oublier notre quotidien qui n'est pas des plus joyeux en ce moment vu l'actu, car les BFM Awards, c'est...
C'est la fête ce soir, la fête des entrepreneurs.
La guerre aux portes de l'Europe, la crise énergétique, les pénuries.
Je ne suis pas porteur de très bonnes nouvelles. L'horizon est un peu tendu en ce moment. Vrai. On prévoit une récession aux États-Unis, une récession en Europe, une récession en France également. Avec une inflation qui va rester, bien entendu, assez forte.
C'est la fête, messieurs, dames. Eh bien, si vous avez encore un peu de morale après ce que vous venez d'entendre, bonne soirée, l'info continue demain.
Bravo Bertrand Charleroi. Bonne représentation demain, merci chère Jennifer, longue vie à numéro 9. Tout de suite sur France 5.
La grande librairie, Marcel Proust, tous Proust, faut que je fonce.
Oui, fonce. Nous, de notre côté, on se tourne vers Sébastien pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis, merci à vous, chers invités. Ah ben venez. Voilà. Ah ouais. Voilà. Ah oui, c'est une nouveauté. Allez. Venez, oui, on improvise. Venez, on fait un rassemblement, un pack, pour vous souhaiter une excellente soirée. Et on se retrouve demain à 19h en direct. Jennifer, vous venez d'inventer un truc.
Ouais, ben voilà.
Entre autres.
Je saurais me faire discrète, puisqu'il faut croire que c'est la tradition devant vos amis. Mes fils, ma force, ma raison.
Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous. Et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.